des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque nous passerons cette heure en compagnie d'une des grandes figures des lettres américaines, l'un des princes de New York, le dernier des Fitzgeraldiens, l'auteur de 30 ans et des poussières et du dernier des Savage, de la belle vie ou de Bright Lights, Big City, j'ai nommé Jay McInerney. Bonjour Jay McInerney.
Bonjour Christophe.
Alors, je salue aussi Michel Zlotowski qui est à côté de vous. On est dans une chambre d'hôtel à Paris. Et Michel, vous allez interpréter Jay pendant 7 heures. Alors, vous êtes né à Hartford, dans le Connecticut, en 1955. Vous êtes le chantre des jours et des nuits new-yorkaises, de la difficulté d'aimer, du glamour speedé des années 80 et des lendemains de fêtes splinétiques dans une ville qui attire autant qu'elle broie. Vous êtes aussi un merveilleux écrivain du couple, de sa beauté, de ses difficultés, surtout lorsqu'il est confronté, ce couple, au soubresaut de l'histoire américaine, crack financier ou terrorisme soudain. Vous êtes monté à New York à la fin des années 70, vous avez d'abord œuvré pour le New Yorker, où vous étiez fact-checker, une profession dont on se dit que, en cette époque de fake news, elle risque d'avoir décidément beaucoup d'avenir. Et de cette expérience, vous êtes inspiré, guidé par Raymond Carver, votre mentor en littérature, dans votre premier livre, Bright Lights, Big City, vendu à près d'1 million d'exemplaires. Vous avez été propulsé, guidé par Raymond Carver, au firmament des lettres américaines avec 3 autres camarades. Alors, il y avait une journaliste proche d'Andy Warhol, Tamara Janowitz, une certaine Donna Tartt, qui n'avait pas encore publié Le Maître des Illusions, et un autre joyeux luron appelé Bret Easton Ellis, le futur auteur d'American Psycho, qui va devenir, comme vous, une icône du Manhattan littéraire. Alors on vous appelle à l'époque le Brat Pack. C'était quoi, Jay McInerney, ce Brat Pack, souvent réduit à une bande de gamins gâtés qui faisaient la fête, qui écrivaient, mais qui ne vivaient pas comme des écrivains devraient vivre?
Well, the Brat Pack was partly a journalistic fiction.
Eh bien, c'était une fiction journalistique, ce Brat Pack.
We didn't consider ourselves.
On ne se considérait pas principalement comme étant un groupe.
You know, when I published
Bright Lights, en fait, quand j'ai publié Bright Lights, il n'y avait pas d'autres jeunes écrivains à l'époque. Dans les années après, il y a eu Bret Easton Ellis qui a publié Moins que Zéro, il y a eu L'Histoire Secrète. Mais c'est vrai qu'on était amis, c'est vrai que on avait des vies publiques à New York, mais notre écriture était assez différente et sur le plan stylistique, sur le plan philosophique. Je crois que nous étions tous un peu surpris d'avoir été englobés dans un groupe.
Quelle était la nature de votre relation à tous les deux avec Bret Easton Ellis? C'était votre double, votre âme-sœur, un complément. Vous avez dit vous-même que c'était un alter ego monstrueux.
Avec Bret, on est devenus amis.
After I published Bright Lights, Big City,
après que j'ai publié Bright Lights, Big City,
I was on a panel with
j'étais
Bret.
Un jury avec Bret.
Bret had not yet published
Bret n'avait
less
pas
than
encore
zero.
Publié Moins que Zéro.
But I read
Mais
the novel before
j'avais
it was published.
Lu le roman avant qu'il ne soit publié.
And I sensed that Bret
Et
was
j'ai senti que Bret
kind of crazy
allait avoir cet avenir dingue que moi je vivais.
Bright Lights had turned my life completely
Bright Lights
upside down.
Avait totalement bouleversé ma vie.
And I sensed that this was about
j'ai senti
to him,
que ça allait lui arriver aussi.
I felt a little protective of
J'étais
I wanted to,
un petit peu son protecteur, en quelque
to prepare
sorte.
Him for what was coming.
Je voulais le préparer à ce qu'il allait lui arriver.
Also, he was a kindred spirit.
Et puis bon, c'était un bon garçon.
We liked many of the same things,
on aimait beaucoup des mêmes choses,
including nightlife, so we
y compris la vie nocturne.
We became friends, but,
on est devenus amis.
But of course we were also
Mais bien
rivals,
sûr, nous étions rivaux.
We were also competitors.
Nous étions aussi dans la concurrence.
It's a complicated relationship.
C'est une relation compliquée.
And it became more complicated
Et c'est devenu encore plus compliqué lorsque Bret
putting my characters in his
a
own
commencé
novels.
À me of mettre course, moi en tant que personnage dans ses romans à lui.
Lunar Park.
Then he put me in his.
Et voilà, yeah, il m'a mis moi dans ses bouquins.
But he borrowed one of my characters,
et
Alison
il m'a
Poole,
emprunté un de mes personnages, Alison Poole,
from a story of my life, toute ma
de,
vie,
toute ma vie.
And
then I was
a character in Lunar Park.
Et puis moi, je suis devenu aussi un personnage dans Lunar Park.
So we have a very complicated.
Donc on a eu une
history,
relation, une histoire très compliquée.
On the other hand, I'm happy to say that.
D'un autre côté, je suis très heureux de dire que j'ai dîné avec lui à Los Angeles la semaine dernière.
So we're still friends.
On est toujours amis.
Alors, est-ce qu'il continue à écrire parce qu'il s'est davantage finalement aventuré dans le cinéma et dans les séries aussi, puisqu'il a écrit cette série. Est-ce qu'il s'est remis au travail de romancier?
I think it's very strange.
Je crois que c'est très étrange.
I always tell him this. That
et je lui dis toujours.
He's the only person I know who went from being a world famous novelist.
La seule personne que je connaisse qui était un écrivain connu du monde entier,
et
pour devenir un scénariste en lutte, enfin qui tentait de percer, disons.
Je comprends pas
pourquoi quelqu'un se soumettrait à cette frustration.
Screenwriting,
de l'écriture, de scénarios, de devoir présenter ses scénarios, ses écrits à des crétins d'Hollywood.
This is what he's doing now.
C'est ce qu'il fait maintenant.
And he actually said something to me.
En fait, il m'a dit quelque chose la semaine dernière.
Last week he said.
Il m'a dit.
That he'd never been. He was happy for the first time in his life.
Il était heureux pour la première fois de sa vie.
And that he was afraid that.
Et qu'il craignait que dans cet état de bonheur, on ne peut pas écrire des romans. Les romans viennent du malheur. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de roman.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire, dit-on en français. C'est une expression. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement ce qui vous sépare? Et puis après, on va arrêter de parler de lui. Mais au fond, aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris des romanciers, doutent de la capacité du roman comme genre littéraire à dire le monde. Et beaucoup de gens disent, en fait, c'est dans les séries, c'est dans le cinéma, mais est-ce que vous, Gemma Kinnearney, vous avez encore foi dans le roman pour dire le monde, pour dire les gens, pour dire la complexité de la situation contemporaine?
I absolutely believe that the novel
oui, totalement. Je crois toujours que le roman, c'est
narrative.
La narration, la forme narrative ultime, le véhicule ultime. Moi, personnellement, je ne sens pas la même chose au sujet du cinéma.
Bon, cinema has a larger audience.
C'est vrai que le cinéma a un public beaucoup plus important que la télévision, le cinéma, la musique populaire. Arrive à plus de gens. Oui.
But for me,
mais pour moi,
Ulysses, The Great Gatsby,
vous savez, Gatsby
more,
le magnifique, ce sera toujours plus important que Citizen Kane ou Chinatown.
Dans les codes narratifs, finalement, ce bon vieux roman reste finalement une très très bonne matrice, quitte à faire évoluer justement cette forme, mais par rapport aux séries, aux visuels,
yeah,
à tout ce qui est.
But it's proved to, it's proved,
mais oui, mais il a été prouvé que c'est plus durable. I mean, ça peut durer 500 ans. Depuis Don Quichotte, on le sait. Le roman change, il s'adapte. Et ça reste quelque chose de pertinent. Et extrêmement versatile, changeant, adaptable.
Et qu'est-ce que ça vous a fait à vous de vous retrouver comme un personnage, finalement, dans Lunar Park, voilà, en tant que Gemma Kinnearney, dans la prose de votre ami, qu'est-ce que ça faisait? Vous aimiez ce personnage qu'il avait fait de vous?
I wasn't so happy when I read.
J'étais pas très content quand je l'ai lu.
When I first read Lunar Park,
quand j'ai lu pour la première fois Lunar Park,
I was a little bit irritated.
J'étais un peu irrité.
But then I realized that.
Et puis je me suis rendu compte que
it's a novel, it's fiction.
C'est un roman, c'est de la fiction.
And I should not
et que
take it too,
je ne devrais pas le prendre trop au sérieux. C'est pas du journalisme, c'est pas un reflet de la réalité.
And once I considered that, then
une fois que j'ai compris ça, j'ai trouvé ça très amusant.
Of course, the character,
bien sûr, le personnage de Jay McAnally, c'est une caricature.
Caricature of Jay McAnally.
Très lunaire.
Caricature.
Yes,
it is. But, oui, vraiment.
Yes. So, you know, I'm honored to be. Lunar Park is a very, very good
novel. Lunar Park est un excellent roman.
I'm happy to be.
Je suis heureux d'en faire partie.
Je parlais tout à l'heure, je vous demandais s'il y avait chez vous, et il n'y en a pas, de doute quant à la qualité du roman et le pouvoir du roman pour dire le monde aujourd'hui. Après ce formidable succès de Journal d'un oiseau de nuit, qui est redevenu ensuite Bright Lights, Big Cities, 1 million d'exemplaires, ça a été difficile de repartir justement dans le roman après un tel succès. Vous comprenez finalement que Brett se dise, bon, voilà, j'y arrive plus, c'est trop compliqué. Vous avez eu ce creux, vous aussi?
You know, I try not to think about it.
J'essaie de ne pas y penser.
Push forward.
J'essaie d'aller de l'avant.
I actually had completed my second novel before Bright Lights, Big City was published.
Deuxième roman avant la publication de Bright Lights, Big City.
It was the third one which took me a long time.
Et c'est le troisième qui m'a pris beaucoup plus de temps à écrire.
That kind of success is disorienting.
Vous savez, ce type de succès vous désoriente.
And there's also there's also the perception that
il y a aussi cette perception que les gens attendent de vous que vous fassiez quelque chose d'encore plus spectaculaire. C'est difficile de suivre ces attentes ou de remplir ces attentes.
While, I think I just escaped
et je me suis échappé pendant un temps.
Just enjoying the fruits of
avoir le plaisir des fruits du succès, d'être l'auteur de Bright Lights, Big City.
Being a character, also.
Et puis un jour, il a fallu que je me réveille
et
que je me remette à écrire.
Ça, vous sentez que si vous ne vous remettez pas à écrire, ça vous rend malade, ça vous déséquilibre. Il y a un besoin vraiment d'écrire ou vous pourriez finalement arrêter?
I feel there is a need to write.
Non, il y a un besoin d'écrire, oui, je le sens.
I can't imagine a life
je peux pas imaginer
in which I don't
une vie où
almost every day.
Je n'écrirai pas tous les jours.
It's just part of who I am.
Ça fait partie de moi.
Mais pourquoi?
I'm fortunate that people are interested in
d'avoir des gens intéressés à lire ce que j'écris. Mais j'écrirai même s'ils ne me lisaient pas.
Mais pourquoi? Est-ce que vous savez, si je vous demande la question, pourquoi écrivez-vous, qui est vraiment la question, est-ce que vous seriez capable de me l'expliquer? Pourquoi justement, you need to?
Je ne sais pas.
Les
athlètes doivent être actifs.
There's a part of my brain
c'est une partie de mon cerveau qui aime cet exercice
of writing, that
de
likes
l'écriture.
It's a kind of a play,
c'est
you know?
Comme un jeu.
A kind of a juggling words and,
vous savez, jongler avec des mots, former des phrases, raconter des histoires.
It's a form of pleasure. It's
c'est
a
vraiment
form
une forme de plaisir, c'est une façon de se masturber.
Je voudrais commencer par une lecture, Jem McInerney, parce que vous êtes l'auteur, on a parlé de Bright Light, Big Cities, mais d'une magnifique trilogie, vraiment, et j'ai grandi avec cette trilogie, donc je vous remercie, j'en profite ici, qui était très très différent de Bright Light, Big Cities, plus mélancolique, plus Fitzgeraldienne, en tout cas c'est ça que les gens ont dit. Cette trilogie, elle a commencé avec 30 ans et des poussières, elle s'est poursuivie avec La Belle Vie, et elle se termine, ou peut-être pas, vous nous le direz aujourd'hui, avec Les Jours Enfuis. Et c'est au fond le récit d'un couple, Russell et Corinne Calloway, qui sont vos héros. Alors, dans le premier, elle était courtière et lui est éditeur. Dans La Belle Vie, il y a eu le 11 septembre, donc elle a essayé de se réinventer une nouvelle vie. Mais Russell est resté à continuer à être éditeur. Ce couple qui est presque devenu un personnage, d'ailleurs. Est-ce que c'est le couple qui est le personnage ou est-ce que c'est... Vous dites que c'est une unité de base, d'ailleurs. Et je voudrais, avant qu'on entre dans cette intimité que vous avez avec vos deux personnages extrêmement attachants, qui se trompent, qui se quittent, qui recommencent à s'aimer, qui font des enfants, qui sont parfois déprimés, parfois très heureux, qui font l'amour et qui parfois arrêtent de faire l'amour aussi. Je voudrais, avant de parler d'eux, lire les premières lignes des Jours Enfuis. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, les jeunes gens rejoignaient la grande ville parce qu'ils aimaient les livres, qu'ils voulaient écrire des romans, des nouvelles ou même des poèmes, ou parce qu'ils rêvaient de participer à leur fabrication et à leur diffusion, et de travailler avec ceux qui les avaient créés. Manhattan apparaissait, aux yeux de ceux qui hantaient jadis les bibliothèques de banlieue et les librairies de province, comme l'île enchantée du monde des lettres. New York, New York. Ces lettres s'étalaient sur les couvertures, c'était la ville d'où provenaient les livres et les magazines, là où se trouvaient toutes les maisons d'édition, les locaux du New Yorker et de la Paris Review, là où Hemingway avait mis son poing dans la figure d'O'Hara, où Ginsberg avait séduit Kerouac, Hellman intentait un procès à McCarthy et Mailer cognait sur tout le monde. Là où, du moins était-ce ainsi qu'il se l'imaginait, les assistants d'édition prenaient leur travail à cœur et les futurs romanciers fumaient dans des cafés en récitant du Dylan Thomas. Ce passage, Gemma Kinnerney, il commence par « Autrefois, il n'y a pas si longtemps ». On sent que c'est révolu aujourd'hui. Est-ce que New York est toujours une ville aussi excitante pour un écrivain, puisque la nostalgie, on la sent tourner à fond dans ce passage?
Oui,
je pense que le mythe est toujours vivant.
There are still writers,
il y a toujours des écrivains, des jeunes écrivains qui viennent à New York chaque jour. Tous les jours. Certains d'entre eux parce qu'ils ont lu Bright Lights, Big City. D'autres parce qu'ils ont lu American Psycho ou d'autres livres.
Mais
ils continuent de venir à cette ville pour certaines raisons qui m'étonnent. Pour écrire des romans. Beaucoup d'entre eux viennent à Brooklyn plutôt qu'à Manhattan. Parce que Manhattan est devenu trop cher. Quand moi je me suis installé à Manhattan, il y avait beaucoup de quartiers difficiles, à très bon marché. On pouvait se permettre de louer là-bas. On pouvait vivre dans le East Village, vraiment pour très peu d'argent. Mais c'est toujours New York. Et je crois que je suis étonné par la persistance de cette idée de New York comme destination littéraire. Russell, mon personnage, est très nostalgique ici. Il va avoir 50 ans. Donc il regarde un peu en arrière.
Mais donc c'est pas votre impression à vous, à l'auteur, c'est l'impression du personnage. Cette mythologie, elle continue à exister.
Oui. C'est mon impression que ça se poursuit. Russell, le personnage, est un peu plus nostalgique que moi.
Alors, on sent dans toute votre œuvre, Gemma Kinnerney, l'importance de la ville de New York, et évidemment davantage qu'un simple décor. La ville, dans son atmosphère changeante, scande l'écoulement du temps, en fait, pour les personnages, les états d'âme aussi de ces personnages. Dans le premier tome, c'était tout à fait érotique, je vous cite, « Il y avait des mirages ». Des rumeurs naissaient de la vibration de l'asphalte surchauffé, des envies plus fortes de rigolade et d'assassinat. L'air visqueux devenait supraconducteur des courants sexuels entre 1 million de piétons en nage. Et puis dans ce troisième tome, je parle d'un Noël mondain, un moment. Toutes ces réceptions qui, dès la mi-décembre, commençaient à ressembler à de l'esclavage, on se réveillait dans l'obscurité matinale avec la gorge desséchée et la tête lourde, gelée. Quelques heures après le dernier cocktail et le dernier adieu, on est passé d'un état d'excitation sexuelle à un état de fatigue où la température est retombée. Est-ce que c'est New York qui a changé? Ou est-ce que c'est l'auteur ou ses personnages qui ont changé?
Je pense que les personnages, vous savez, ils approchent ce passage de la cinquantaine. Ils sentent l'après-coup des nuits agitées plus qu'auparavant. Et pourtant, ils sortent encore toutes les nuits. Ils poursuivent encore le rêve new-yorkais. Ils sentent un petit peu la gueule de bois un peu plus qu'avant.
Mais Russell,
il est toujours très amoureux de la ville. Et un des thèmes principaux du roman, c'est la tentative de Russell de rester à New York. Sa femme pense que New York devient trop cher, elle veut partir. Mais Russell, lui, pense qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde que New York, que Manhattan.
Vous êtes échappé de New York pour quelques nouvelles, Gemma Kinnerney, et quelques romans, notamment Random, qui se passait au Japon, ou Le Dernier des Savages, qui était aussi principalement en dehors de New York. Les critiques à l'époque pour Random n'avaient pas compris que vous quittiez Manhattan. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui vous échapper littérairement de New York, ou est-ce que Gemma Kinnerney n'est pas condamnée par son public à New York?
I think that It's unlikely that I'll ever write another book.
Il est peu probable que j'écrive un livre qui ne soit pas à Manhattan.
You know, I think it was noble. It was a noble experiment.
C'était
writing,
une expérience très notable, noble, d'écrire au Japon, d'écrire sur le sud. C'était une diversion de ma mission primordiale.
And I think New York is my.
Je pense que New York c'est mon sujet.
Ma mission, vous avez dit, et ensuite mon sujet. C'est pas pareil.
Well, both. Well, it's.
Ben, c'est les deux.
It's a passion, it's,
c'est une passion.
You know, sometimes I approach it,
parfois, du point de vue intellectuel, parfois, c'est du point de vue émotionnel, du cœur. Mais en tant que romancier, on a besoin des deux. Il faut la passion et il faut l'intellect.
Alors, on va parler de vos personnages, Jay McKinnon, et de ce couple désormais mythique que forment Russell et Corinne, et de ce nouveau livre, Les Jours Enfuis, qui paraît aux éditions de l'Olivier, qui est traduit de l'anglais, donc des États-Unis, par Marc Anfreville. On en parle, mais d'abord, on écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi, sans surprise, Bright Light, Big City, c'est Jimmy Reed. On écoute. Bright Lights, Big City, c'est le premier choix musical de Jay McKinnon avec qui nous passons cette heure, ce temps des écrivains. Évidemment, Bright Lights, Big City, il fallait que vous choisissiez ça, Jay McKinnon.
Well, I've always been a big fan of the blues.
Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le blues.
Jimmy Reed was kind of a transitional.
C'était vraiment quelque chose de transition. Ça allait plus vers le blues de Chicago. Il a composé Bright Lights, Big City. Je pense que c'était au début des années 50.
The first time I ever heard it,
et la première fois que je l'ai entendu.
I was riveted and,
j'étais vraiment cloué.
I always felt that I would,
et somehow, j'ai toujours senti qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ce morceau deviendrait un thème de ma vie.
Et
un jour, je cherchais un titre pour mon premier roman.
Et
je me suis posé la question au sujet de moins que zéro. Et le morceau d'Elvis Costello, mais je pensais que ça n'aurait pas été un bon titre pour mon roman. C'était un très bon titre pour le premier roman de Bret Easton Ellis. Et puis je me suis souvenu de Bright Lights, Big City. J'ai entendu les Rolling Stones qui en ont fait une reprise.
Et
j'ai entendu ça.
The bootleg cover version, Bright Lights, Big City, 1963.
La reprise volée des Rolling Stones. Je me dis, tac, ça y est.
Alors, un mot sur cette trilogie new-yorkaise hein, qui nous a donné le bonheur littéraire de suivre entre 1986 et 2007 à peu près ces deux personnages, Russell et Corinne, issus des milieux intellectuels, on y reviendra, de l'équipe de l'art et de l'amour, comme vous l'appelez. On a suivi le récit de leur vie, leurs projets, leurs errances, leurs succès, leurs doutes dans 31 des poussières. Paru en France en 92, c'était la fin des années 80, les ambitions de Russell dans un monde de l'édition pourtant déjà livré aux fureurs des lois du marché. Et puis les doutes de Corinne face à son travail de courtière et aussi aux fêlures de son couple. Dans La Belle Vie, on est après les attentats du World Trade Center et vous livriez Jay McKinnon à la description des bouleversements majeurs qui avait opéré sur les trajectoires individuelles ce drame, cette tragédie des attentats. Et vous introduisiez Luke McGavock, un personnage duquel Corinne tombait amoureuse, qu'elle rencontrait dans une cantine, dans la cantine de Ground Zero, alors qu'il soutenait les missions de sauvetage opérées sur Ground Zero. Et puis dans Les Jours enfuis, qui paraissent aujourd'hui, on est juste avant les années Obama, et vous poursuivez les aventures de Russell et Corinne, qui sont maintenant presque cinquantenaires, parents de deux jumeaux, possesseurs d'un loft à Tribeca. Et toujours les mêmes thèmes, développer les rapports entre les personnages, leur histoire d'amour et les retrouvailles de Corinne et de Luke plusieurs années après leur liaison. Parallèlement, Russell est maintenant éditeur à son compte et il espère, lui, faire un coup de poker littéraire avec des livres dont il espère un succès fulgurant. Comment cette suite se justifiait-elle? Et deuxième question qui est très liée, de la même manière que vous êtes un peu prisonnier, mais vous avez choisi cette prison de New York. Est-ce que finalement, de Russell and Corinne, vous n'êtes pas aussi le prisonnier?
Well, I think that I really like these characters. So
bah, finalement, j'aime bien ces personnages.
It's not a problem to be, associated with.
C'est pas un problème d'être lié à eux.
I sometimes wonder about them.
Et je me pose des questions à leur sujet parfois quand je n'écris pas. You know,
Russell,
sur eux.
Russell, is kind of my
Russell c'est un, en quelque sorte mon alter ego. Il vit la vie que moi j'aurais pu vivre si je n'avais pas été écrivain. Si je n'avais pas été romancier, j'aurais été éditeur de livres. Si j'étais resté marié avec ma première épouse, ça aurait été la vie que moi je vivrais. Si vous voulez, c'est une vie parallèle à la mienne. Et pour cette raison, je trouve ça intéressant.
Et
Russell est un personnage plus représentatif que moi-même, en fait. Le genre de vie que j'ai vécu en tant que romancier à succès n'est pas très représentatif. C'est pas très typique. Je voulais que ce couple reflète la vie de la ville.
And to be the lens through which
qu'il soit l'écran qui me montrait la vie sociale
so
de New York.
The larger social picture in this
et donc cette image de la ville de New York dans
2008.
Ce livre, c'est la crise financière de 2008 et l'élection qui a eu lieu en 2008.
So this was the
l'élection présidentielle.
C'était la raison,
c'était l'occasion de revoir ces personnages.
In 2012, when I looked back,
en 2012, quand je me retournais sur le passé,
this was a fascinating time
je me suis dit que c'était une époque fascinante de l'histoire de New York. Le système financier s'effondrait.
But we had the election of Obama.
Et il y avait l'élection d'Obama quasiment au même moment.
So I thought, that's,
donc je me suis dit,
that's the time which I wanna...
c'est le moment que je souhaite revoir.
And that's the time to revisit Russell and Corinne.
Et c'était le moment de se retrouver avec Russell et Corinne.
Là, on parle effectivement des événements géopolitiques, financiers, le krach de Lehman Brothers, l'élection d'Obama. Il y a à chaque fois, évidemment, on sent la permanence dans votre fiction entre les éléments extérieurs. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui reste stable. Qui reste éternel dans chacun de vos livres, et notamment de cette trilogie, c'est la question du couple, en fait. On parle parfois de wedding novel, de roman de mariage. Pour vous, ça tient la route comme genre littéraire, le wedding novel, c'est-à-dire étudier comment un mariage, comment un couple, finalement, dit beaucoup sur la nature humaine, autant que l'élection d'Obama et le reste.
Well, yes, marriage is the fundamental.
Vous savez, le mariage, c'est l'unité fondamentale de la société.
And it's a perpetual subject of fiction.
C'est le sujet perpétuel de la fiction
for
depuis des siècles.
In the case of this couple,
le cas de ce couple.
I'm fascinated by the idea of
je suis fasciné par l'idée d'un couple qui reste marié
through all the temptations of
à travers
life
toutes les tentations de New York.
It was not possible for me, but
ça n'a pas été possible pour moi.
Vous êtes un
so I kind of envy
Mais en quelque sorte, j'envie ce couple. Je suis jaloux d'eux. Je voudrais voir si je réussirais à les maintenir ensemble. Quand j'ai commencé ce livre, je n'étais pas sûr qu'ils allaient rester ensemble. Parce que je savais que Corinne allait avoir une relation amoureuse. Une affaire, comme on dit en anglais. Et... J'étais au milieu du roman avant de savoir si elle allait partir avec son amant ou si elle resterait avec son mari.
Et quand vous aviez commencé 30 ans et des poussières, vous saviez que vous alliez les suivre comme ça sur 2, 3 livres ?
Non, je n'avais absolument aucune idée. Et en fait, un des personnages principaux dans le premier livre meurt à la fin du livre. L'écrivain Jeff Pierce.
Et
si je m'étais rendu compte que j'allais continuer avec ces personnages, probablement je ne l'aurais pas tué. Mais bon, c'était ma manière de tuer la caricature de Jay McInerney, celui que Brett avait décrit dans Luna Park. Je voulais dire adieu à ce Jay McInerney qui sortait dans les boîtes de nuit et qui passait des nuits échevelées.
Est-ce que être un romancier, Jay McInerney, c'est manipuler deux notions qui sont très très importantes dans le monde des humains et qui du coup sont importantes aussi pour le monde des personnages? C'est le sexe d'un côté et l'argent, en fait, puisque on le voit dans Les jours enfuis, ce sont, comme ça l'était dans 30 ans et des poussières, ce sont les deux dynamites en fait avec lesquelles vous jouez. Finalement, on n'en sort pas depuis Balzac, depuis peut-être pas Don Quichotte, l'argent comptait moins, mais finalement, être romancier, c'est toujours jouer avec ces deux notions éternelles, ces deux principes.
Yes, absolutely. And I think,
totalement.
I put it in a slightly different way in the
Je l'ai mis de façon un peu différente dans mon roman.
But Russell divides the world
Mais
into
Russell
two teams.
Divise le monde en deux équipes.
One team is the team
Première équipe,
art and love.
C'est l'amour et l'art.
And the other team
et la deuxième
is the team
équipe,
of power
c'est
and money.
Le pouvoir et l'argent.
And,
et voilà donc les deux grandes forces et les deux grandes motivations. Et c'est très évident, particulièrement dans une ville comme New York. Pour Russell et Corinne, eux, ils sont du côté de l'amour et de l'art. Ils croient dans l'amour, ils croient dans le sexe et dans la passion. Ils ne sont pas aussi motivés par le pouvoir et l'argent. Mais très certainement, la plupart des gens autour d'eux le sont. Ils sont vraiment dans l'équipe de la puissance et de l'argent.
Et ça, à New York, ça a changé, justement. Finalement, par rapport au passage qu'on lisait tout à l'heure, finalement, est-ce que la question de l'argent est devenue encore plus importante qu'avant ? On a cru un moment avec le 11 septembre que les gens étaient revenus, vous l'expliquiez dans La Belle Vie, à des choses plus humaines. Là, à nouveau, l'argent est revenu ? L'obsession pour l'argent et le pouvoir est revenu ?
Oui, je crois que l'obsession pour l'argent est de retour. Et c'est encore plus puissant que jamais. Je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais nous avons élu un horrible milliardaire de New York en tant que président. C'est le sommet de l'équipe du pouvoir et de l'argent. Bien sûr, on a tous voulu penser qu'on avait changé après le 11 septembre. Mais malheureusement, la nature humaine ne change pas.
On vous compare beaucoup à Fitzgerald. J'ai pensé, moi, surtout dans Les jours enfuis, à quelqu'un qui est James Salter. Un bonheur parfait, James Salter. C'est quelqu'un qui a compté pour vous, littérairement, comme écrivain?
Oui. C'était un ami à moi, Salter. Mais c'est aussi quelqu'un que j'ai vraiment admiré. Et en fait, je pense que son roman Light Years a eu une influence sur la création de mes personnages, Russell et Corinne Calloway. C'était un roman sur le mariage, un mariage glamour. Et rétrospectivement, je pense que ce livre a eu une grosse influence sur moi. Mais j'aime son œuvre.
And I'm happy that he had an audience here in France.
Je suis heureux qu'il ait eu un public en France de lecteurs.
He was not as popular in the United States.
Il n'était pas aussi populaire que ça aux États-Unis, autant qu'il le méritait.
Et qu'est-ce qu'il vous a appris littérairement, James Salter?
Well, I mean, I just his style is so.
Son style.
So beautiful, so
tellement
intricate.
Beau,
for somebody who
tellement
loves,
complexe,
who loves languages, just,
pour quelqu'un qui aime la langue.
He was a virtuoso.
Vraiment, c'était un virtuose. Et je pense qu'il m'a inspiré à repousser les limites du langage. Et c'est un des rares écrivains qui écrivait bien sur le sexe. C'est très très dur à faire.
He was a master.
Mais lui, c'était un maître.
C'est le plus dur à écrire, la scène de sexe pour un écrivain. Il y en a beaucoup dans Les Jours enfuis, notamment la première scène d'ailleurs de sexe du livre où Russell sent une pulsion de mort au moment où il fait. Et ça, c'est très très nouveau. C'est le plus difficile à faire, la scène de sexe quand on est un écrivain.
I think it's very difficult to do.
Je crois que c'est très très dur à écrire.
There was more sex in
Il y avait plus de sexe dans la première épure du livre, dans le premier jet.
But I think that it's something you
Je
have
pense
to
que
be very careful about.
Il faut faire
you
très très attention.
You have to be sparing in your
il faut,
in writing about sex.
And quand on écrit, il faut vraiment être un petit peu en arrière de la main.
In the case of the scene you're talking about,
dans la scène que vous avez juste
décrit,
je parlais
fear of death as I was writing about
de
sex.
La crainte de la mort éprouvée par Russell autant que du sexe. Donc il y avait deux sujets là précisément. C'est difficile et j'espère que la façon dont j'ai décrit le sexe dans Les Jours enfuis est réussie.
None of the reviewers insulted my sex scenes,
aucun des critiques ne m'a jeté vraiment des choses à la tête. En décrivant ou en parlant de mes scènes de sexe.
There's an award in England that they give every year for the worst writing about sex.
Une récompense, en fait, c'est pas une récompense, mais c'est un trophée qu'ils donnent en Angleterre. C'est recevoir le prix de la pire scène de sexe. C'est vraiment le cauchemar de tout écrivain de se voir décerner ce trophée de la pire scène de sexe.
On va entrer.
Je ne l'ai pas eu.
Bravo. Voilà. Ouf. Comme on dit. On va entrer dans la dernière partie de cette émission avec vous, Jem McInerney. J'aimerais qu'on parle de Raymond Carver, qui a été votre mentor en littérature, et puis de la façon, au fond, dont vous travaillez, comment vous construisez vos personnages, comment vous développez une intrigue. Vraiment, entrer dans votre petit atelier, Jem McInerney. On écoute d'abord votre deuxième choix musical. Vous avez choisi Joy Division, Love Will Tear Us Apart.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Onodibio.
Joy Division, Love Will Tear Us Apart, c'est le deuxième choix musical de Jem McInerney qui publie Les Jours enfuis aux éditions de l'Olivier, c'est traduit de l'anglais des États-Unis par Marc Anfreville. Nous sommes toujours aussi avec Michel Zlotowski qui interprète Jay McInerney. Pourquoi Joy Division? C'était le Jay McInerney qui n'avait pas encore publié et qui souffrait, que personne ne pouvait lire, qui était dans une période très noire de sa vie.
Yes, yes, it was a... That was a dark period of my life, actually.
C'était une période sombre de ma vie.
I listened to Joy Division a lot after my mother,
j'écoutais
my mother died.
Beaucoup ce morceau après la mort de ma mère.
I was 23 years old.
J'avais 23 ans.
And I was struggling with my work.
Et je luttais avec mon travail.
I had difficulties in love.
J'avais des problèmes amoureux.
And I just think that also the Joy Division is just it was incredibly
et vous savez, c'était tout nouveau, tout beau, c'était très intéressant, très enthousiasmant quand ça a été mis à l'antenne. Et ça représentait aussi l'artiste torturé. Il avait l'air de souffrir quand il chantait. Et c'était une idée très attirante pour un artiste en devenir.
C'est vraiment Raymond Carver qui vous a sorti de l'ornière, finalement, ou de l'impasse, au fond, littéraire.
I met Raymond Carver when I was
j'ai rencontré Raymond Carver quand j'habitais à New York et je travaillais.
I'd just been fired as a fact checker.
En fait, on venait de me vider en tant que fact checker de ce journal.
Je
travaillais pour le New Yorker et on m'a vidé.
So I was unemployed when
donc j'étais au chômage quand j'ai rencontré Carver.
I was trying to write.
J'essayais d'écrire des romans.
I was not writing very well.
J'écrivais pas très bien.
You know, this was the period. My mother had died.
Ma mère, je lui dis, venait de mourir. J'avais perdu mon boulot.
My wife.
Et ma femme m'avait quitté.
My wife had left me, so I was a very.
Ma femme m'avait quitté, donc j'étais vraiment une période très très sombre de ma vie.
Qu'est-ce qui ne marchait pas dans la fiction? Pourquoi vous dites j'écrivais pas très bien?
Well, I was drinking too much and doing too many drugs.
En fait, je buvais trop et je prenais trop de drogues pour écrire bien.
And also, I did not yet have the skills.
Et j'avais pas les capacités nécessaires. J'avais pas les qualités nécessaires non plus. J'avais l'ambition.
I didn't have the tools.
Mais j'avais pas les outils.
I didn't have the knowledge.
J'avais pas la connaissance.
So that was when I met Carver.
Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai rencontré Carver.
Who was in New York to give a reading at Columbia.
Qui était là pour donner une conférence à l'Université Columbia à New York.
We had a long talk.
On a eu une longue discussion.
He invited me to come.
Et il m'a invité à venir et à étudier l'écriture avec lui.
Il était
prof de littérature créative.
Aux États-Unis, il y a ces cours de creative writing. Ça commence un peu en France, mais la France est souvent un pays où on pense que on n'apprend pas à écrire. Il y a une sorte de talent, de don. Vous pensez qu'on apprend à écrire?
Oui, c'est un don, bien sûr, un talent, mais.
But you can accelerate
mais on peut accélérer le processus de la découverte de votre propre talent.
You know, nobody finds it unusual that
personne
painters
ne trouve extraordinaire que les peintres étudient, que les musiciens étudient la musique.
So
et donc, l'écriture, c'est tout aussi difficile.
And writing has basic
et l'écriture a des qualités fondamentales qui peuvent être enseignées.
I mean, just to take a simple example,
un exemple très simple.
You can teach grammar.
On peut enseigner la grammaire.
And in order to be a writer,
et pour être écrivain,
really
il faut véritablement comprendre ce qu'est la grammaire. Mais il y a d'autres qualités.
You know, the use of dialogue,
l'utilisation du dialogue.
There are things that you can
il y a des choses que l'on peut apprendre.
About structure, about
sur la structure, le dialogue.
Nobody can become a great writer.
Personne ne peut devenir un grand écrivain en allant à l'école.
But a great writer
mais
can learn,
un grand écrivain peut apprendre, découvrir ses talents plus rapidement.
Et au niveau stylistique, qu'est-ce qu'il vous a appris comme conseil concret? Parce que c'était quelqu'un, vous avez parlé de la drogue, c'est quelqu'un qui était aussi beaucoup dans l'alcool et qui en même temps était dans une économie de mots dans la phrase.
Je crois qu'il m'a enseigné à être en fait plus économe de ma propre expression. Et il m'a enseigné aussi à réfléchir beaucoup plus aux mots que j'utilisais. Parfois, il me posait des questions sur un mot un petit peu recherché. Il m'a dit, mais pourquoi tu as utilisé ce mot-là? Hein, c'est pas un truc où tu es un peu prétentieux, là? Et donc, il m'a enseigné le choix des mots de façon très précise. Et finalement, mon style est très différent du style de Raymond Carver. Mais d'abord, j'ai imité son style. Et puis, j'ai imité Hemingway. Et puis, j'ai imité Don DeLillo. J'ai eu beaucoup de faux départs, en quelque sorte. Mais Carver m'a aidé à découvrir ma propre voix.
Alors, vous menez une vie sociale effrénée à New York et dans les Hamptons. Il paraît que vous faites des parties splendides avec votre épouse Anne Hurst, héritière de l'Empire Hurst. Quand écrivez-vous alors, Jemma Kinnearney?
Bah, j'écris tous les jours.
Usually in the morning.
En fait, le matin, principalement.
Not too early.
Pas trop tôt.
I write from about 9,
j'écris
9:30 or 10 until
à partir de 9h30, 10h du matin, jusqu'à
1:30 or 2 in the afternoon.
13h30, 14h.
Sometimes I write in the afternoon.
Parfois j'écris l'après-midi et parfois pas.
But almost I write almost every day.
J'écris quasiment tous les jours.
No, I won't write this week. I can't write.
Mais cette semaine je peux pas écrire parce que faut que je parle à des gens comme vous tous les jours.
Et cette vie justement de vernissage, de rencontrer beaucoup de monde, c'est un détonateur à histoire ou est-ce que parfois vous ne pensez pas que l'écrivain devrait être un peu en retrait du monde, comme un ascète, comme un ermite?
Non, à l'évidence, je crois en la vie sociale. La vie que je vis à Manhattan, ça c'est mon sujet, c'est le monde sur lequel j'écris. Si moi j'étais ermite, je ne sais pas au sujet de quoi j'écrirais.
Je
n'aurais pas de sujet. Mais je sors la nuit, j'écoute les histoires, j'observe les gens, je vois beaucoup de comportements ridicules. Et j'ai réfléchi le jour d'après.
Quand vous avez distribué de la soupe, d'ailleurs de la nourriture, justement dans les ruines de Ground Zero, après le 11 septembre, finalement, on s'est aperçu après que Corinne, dans La Belle Vie, a fait la même chose. Est-ce que c'était une manière de reportage? Est-ce que l'écrivain que vous êtes a besoin de vivre les choses pour pouvoir les raconter?
Finalement, je me suis rendu compte que je pourrais écrire quelque chose à ce sujet. Mais ce n'était pas ma première pensée. Vous savez, tout ce que je fais est un matériau possible pour mon écriture. Donc j'ai eu le bonheur de pouvoir faire une bonne action et de l'exploiter ensuite.
Vous avez parlé de la drogue, Jemma Kinnearney, que vous avez pris en quantité substantielle à l'époque de Bright Light, Big Cities. Il y a tout un débat dans Les Jours Enfuis sur la thématique de l'artiste maudit. Et Russell, à ce propos, absolument catégorique. Russell désapprouvait le culte de la personnalité, s'opposait à l'idée si fausse de l'authenticité, à la notion qui voulait que l'intensité de la vie de l'auteur soit un gage de la qualité de l'œuvre. Toutes ces conneries sur le sacro-saint ivrogne et le génial junkie qui faisait rimer excès avec sagesse, cirrhose avec talent. Russell croyait que la littérature s'accomplissait malgré les excès de conduite et non pas grâce à eux. Quand vous regardez Jemma Kinnearney, l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, et que vous convoquez le souvenir de ce jeune homme qui galérait à ses débuts et puis qui a explosé à l'époque de Bright Light, Big City, cet homme qui vit très confortablement, on le disait, presque comme un socialite, et qui continue à écrire, finalement, ses histoires. Je crois que même les Corinne and Russell, ça va devenir une série télévisée. Je crois que vous travaillez là-dessus aussi. Est-ce que vous êtes devenu celui que vous vouliez devenir?
Well, first of all, I want to say I disagree with Russell.
Je suis pas d'accord.
He's wrong about that.
Il a tort. Il a tort là-dessus.
I think that I have become.
Je crois que je suis devenu.
The man I wanted to become because of,
l'homme que je voulais devenir.
But I never expected to become.
Mais je m'attendais jamais à devenir ça.
I honestly imagined that I would die young when I was in my 20s.
Je pensais que je mourrais jeune quand j'avais 20 ans. Tous mes héros mouraient jeunes.
Dylan Thomas, F. Thomas,
Scott Fitzgerald,
Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix.
Byron, I mean, all the people I admired, they all.
Tous les gens que j'admirais sont tous morts jeunes.
So I did not expect such a
je m'attendais pas
life,
à une no. vie aussi longue.
But I'm glad that I'm still writing.
Mais je suis heureux d'être toujours là à écrire.
I'm still enjoying life and I'm still writing.
Et j'ai toujours plaisir à la vie et plaisir à écrire.
Dernière petite question anecdotique, enfin, si tant est que le vin soit anecdotique, car vous êtes aussi wine columnist pour le magazine Town & Country, vous avez une grande connaissance du vin. D'ailleurs, je crois que votre cave communique à votre bibliothèque, d'ailleurs, par un escalier en spirale. Mm-hmm. Vous m'aviez raconté ça un jour. Si Russell était un vin, il serait quel vin? Et si Corinne était un vin, elle serait quel vin?
If Corinne were a wine,
si Corinne était un vin,
she would be a Condrieu.
Elle serait un Condrieu, tiens.
Yeah, it's a very complex,
un vin très complexe,
floral smelling, white wine.
Un vin blanc très floral, très rare.
From the Northern Rhone.
Du nord du Rhône.
Yes, and I think that I think Russell would be a Châteauneuf du Pape.
Russell, ce serait un Châteauneuf du Pape, tiens.
Yes, he's very, Russell is not Russell, terribly complex. But
c'est pas très complexe, but very, mais
he's bold.
Il est courageux. Il est puissant.
He has strong beliefs. And,
il a des croyances très fortes.
He doesn't have a lot of shadows.
Il n'a pas beaucoup d'ombre.
And Châteauneuf du Pape is a wine of the
sun.
Et
le Châteauneuf du Pape est un vin du soleil.
Merci, Jim McInerney. Merci beaucoup.
Merci, Christophe.
Vous avez confiance en l'Amérique aujourd'hui?
No, I don't trust America.
Non, j'ai pas confiance du tout.
I'm horrified by I want to move to France.
Je voudrais déménager et venir en France.
Today we see, yesterday,
aujourd'hui,
the
nous
French
avons vu que les Français
are more sane, more sensible
ont plus
than the Americans or
de santé mentale que les Américains ou que les Britanniques.
The French chose the path of moderation.
Les Français ont choisi la voie de la modération
instead of the populist extremism,
au lieu de l'extrémisme populiste.
So vive la France. I say.
Donc, vive la France.
We should all move to France.
On devrait tous venir en France.
On se quitte avec votre dernier choix musical. Vous avez choisi Talking Heads, One in a Lifetime. Pourquoi,
frère? Oh, it's one of the greatest Talking Heads songs.
C'est un des meilleurs morceaux des Talking Heads.
It comes from the 80s, which was
c'est des années 80.
Period that c'est everyone talks about in this book.
L'époque dont tout le monde parle dans ce livre.
And it has some great lines like this is not my beautiful house, this is not my beautiful wife.
Quelques passages merveilleux qui disent c'est pas ma merveilleuse maison, c'est pas ma très belle femme.
It's a perfect soundtrack for this.
Et vraiment, c'est une excellente musique pour ce livre.
You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Let the days go by, let the water hold me down. Let the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this?
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes avec Fantine Gros de la librairie La Lison, 8 Place Jeanne d'Arc, c'est à Lille. Bonjour Fantine.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de nous parler de Johnny Pitts, le manifeste de la jeunesse. C'est traduit par Carole Delport, traduit de l'anglais, et c'est publié chez Les Arènes. Voilà, je vous écoute.
Alors effectivement, le Manifeste de la Jeunesse, ça vient de sortir début avril, ça a été publié par les excellentes éditions Les Arènes. En fait, c'est une série de portraits de jeunes qui ont entre 13 et 21 ans. Le but du livre, qui est écrit donc par cet anglais journaliste d'une trentaine d'années, Johnny Pitts, c'est en fait de recueillir le témoignage de jeunes, bon, un peu exceptionnels, il faut le dire, qui cherchent ou qui ont trouvé des réponses aux problèmes de notre planète. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, il y en a une bonne dizaine, mais par
exemple...
Très jeunes
gens, c'est quoi? C'est la génération, c'est les millennials, comme on dit?
Ouais, c'est la nouvelle génération qui a vraiment moins de 20 ans et qui a envie de faire des choses pour être acteur dans notre société, enfin internationalement parlant. Et puis ceux qui m'ont vraiment marqué dans la dizaine qu'on nous présente, c'est notamment un jeune Canadien qui a moins de 15 ans et qui lui a créé un projet Super Plante qui utilise les bactéries naturelles qui vont manger l'excès de méthane produit par les décharges des usines. Ensuite, on a aussi un jeune Américain qui, lui, a découvert une méthode assez ingénieuse et peu coûteuse pour diagnostiquer le cancer du pancréas, pardon. Et puis aussi une autre jeune Anglaise qui m'a marqué, qui a moins de 20 ans, qui est d'origine somalienne et puis qui mène un droit pour les droits des femmes dont le but est de mettre fin à la tradition dangereuse de la circoncision féminine qui est encore vachement pratiquée dans plein d'ethnies à travers le monde. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ces jeunes-là, ce qui m'a touchée, c'est que en fait, ils ont des qualités humaines dont on parle plus beaucoup et qui sont très importantes, je trouve, notamment la compassion ou la créativité. Mais c'est aussi des passionnés qui ont eu à un moment donné beaucoup de bâtons dans les roues et qui ont persévéré. Notamment ce jeune Américain qui a diagnostiqué le cancer du pancréas, lui, il a eu 199 refus avant que son projet soit accepté.
C'est sous forme d'interview ou de portrait. Comment c'est présenté? Il y a aussi leur portrait physique, des photos?
Alors il y a une photo effectivement qui débute l'interview et ensuite on est sur des portraits qui durent quand même une quinzaine de pages, donc ça va vraiment dans le détail et c'est ça qui est intéressant. L'auteur a choisi au lieu d'énumérer le projet qui en fait se trouve aussi sur internet puisque c'est quand même des jeunes qui ont été médiatisés à un moment donné de leur vie, lui il a décidé de faire un portrait sur leurs choix, leurs motivations mais aussi leurs difficultés, leurs doutes et ça donne vraiment un portrait très sincère, très juste et très humain en fait de ces jeunes-là.
Donc ils sont une dizaine?
Ils sont une dizaine, enfin ils sont exactement 10 en fait. On a le portrait du jeune, un appel à l'acte, en fait dans lequel le jeune lecteur, ou moins jeune, puisque le livre s'adresse vraiment à tout public, qui donne en fait envie d'agir soi-même. Et c'est vraiment le but du livre, c'est de se dire, on peut tous être acteurs, et j'aime le fait que ce soit les jeunes qui soient interpellés, et je trouve que ça peut être un bon début de support pour lancer le débat, notamment avec des professeurs ou avec ses propres enfants.
Merci beaucoup, j'invite les auditeurs à pousser la porte de votre librairie, donc lilloise. Il y a une rencontre à annoncer, Fantine, des écrivains que vous recevez?
La semaine du 15 mai, pardon, on va recevoir donc le 18 mai, le jeudi, Élise Thiébaut pour son livre « Ceci est mon sang » qui est paru à La Découverte et qui parle des règles. Voilà, c'est un sujet qu'il faut aborder.
Parfait, merci beaucoup Fantine Gros de la librairie La Lison à Lille. À bientôt.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec Gabriel Bordron, à la réalisation d'Elvin Lemaire et Anne-Laure Chanel. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, cette émission consacrée à Jay McInerney. On était pendant une heure avec lui.